attraper les choux à la mode de chez nous.
Vous êtes bien sur Dicotylédonde, l'émission qui parle de plantes et de nos liens au végétal.
Yeah.
Ah, ce qu'on est bien dans ce jardin, loin des engins. Pas besoin de choux pour être bien, pas besoin de vin pour être chou.
Dit cotylédon, on entend le mot de et cotylédon. Donc ce sont des plantes qui font des graines avec deux cotylédons.
Dit cotylédon, une émission d'ethnobotanique fabriquée par Clémence, Nina et leurs complices.
Dernière chose à dire, qui permet de reconnaître les dicotylédones. Les dicotylédones, elles ont des nervures qui sont ramifiées. Les fleurs, on les verra une prochaine fois parce qu'on n'a pas de fleurs pour le moment sur le framboisier.
Tous les quatrièmes mardis du mois, de 15h à 16h, sur Radio Galère 88.4.
Chers auditeurs, chères auditrices, c'est la rentrée et l'ouverture de la saison des récoltes d'automne. Alors on se penche pour cette émission de septembre sur l'objet indispensable de vos cueillettes, le panier, et donc, plus largement, la vannerie.
Pour ça, on a invité Claire Chassot, artiste plasticienne, à venir nous parler de sa pratique et de son rapport à l'artisanat du lien. Ensemble, nous explorons ce que la vannerie raconte d'un paysage, des trajectoires de plantes et de savoir-faire, mais aussi du rapport aux gestes, aux récits et au temps que ça tisse.
Je m'appelle Claire Chassot et je suis artiste plasticienne et scénographe pour le spectacle vivant. Et je vis à Marseille et j'ai une pratique de la vannerie à la fois pour le spectacle vivant et pour les arts visuels, qui vient compléter plein de champs de recherche autour de questions écologiques et de place ou de relations qu'on peut avoir avec les végétaux dans nos façons d'habiter. Et je travaille beaucoup principalement en collectif. Et je travaille actuellement avec deux collectifs, un qui s'appelle Seasonal Neighbors. Là, je suis avec eux depuis le départ, en 2020, et qui s'intéressent aux questions d'agriculture, de saisonnalité et de voisinage, donc de relations humains et non-humains. Et puis, tout récemment, j'ai rejoint le collectif Hydromonde. Là, c'est plutôt des questions liées aux usages de l'eau et à des façons d'habiter biorégionales, avec d'autres limites que celles politiques ou administratives qu'on connaît. Donc tout ça me permet d'utiliser la vannerie.
Est-ce que tu peux raconter brièvement comment on est arrivé à la vannerie ?
Et oui, du coup, la vannerie, ça a commencé en 2019, du coup, un petit peu avant. Et moi, je me posais beaucoup de questions dans ma pratique plastique sur l'origine des matériaux que j'utilisais, leur destination, leur pérennité, et puis la part écologique de la production artistique, pas du discours, mais de vraiment qu'est-ce que c'est que de produire des œuvres. Et du coup, comme je viens quand même du théâtre et que j'ai un lien assez étroit avec la narration depuis le début de mes études, j'étais de nouveau retournée, je m'étais éloignée un petit peu du côté art contemporain, création d'objets, pour retourner vers des questions plus de narration et de récit. Et que je trouvais, d'un point de vue formel, très lié au tissage et au fait de lier plusieurs fils et de faire du dessus-dessous et d'entremêler les choses. Et donc, je m'étais dit que j'allais avoir à la fois des enregistrements ou des performances et puis des pièces tissées. Sauf que je n'ai pas du tout la patience de faire du tissage, que c'est vraiment ça le point de départ de la vannerie. C'est que je me suis dit, j'aime beaucoup le concept derrière. Le tissage, mais je n'ai pas la tranquillité de corps pour faire ça. Et donc j'ai cherché d'autres solutions, au départ avec des fils plus gros. Et puis en fait, après, je me suis dit, mais il y a aussi tous ces objets en rotin qu'on voit ou en éclisse d'osier. Et donc j'ai commencé par faire des nattes en dessus-dessous toute seule de mon côté. Mais je n'étais pas très convaincue par le résultat. Il s'est trouvé que j'ai déménagé en Espagne pour suivre quelqu'un à ce moment-là et que j'avais ce cliché de l'Espagne comme royaume de la vannerie. Et que, donc je me suis dit, je vais apprendre. Et là, j'ai eu mon premier stage. Et comme mon premier stage, je l'ai fait par hasard auprès de Carlos Fontales, qui est quand même un vannier star, en fait. Mais ça, je ne le savais pas. Assez extraordinaire comme personne. Donc il m'a transmis plein de choses et il m'a vraiment donné le goût de la vannerie et pour elle-même. Et pas juste pour illustrer ce rapport de relation, de tissage, etc. Vraiment pour l'artisanat en lui-même.
T'as dit la vannerie, c'est immense. Et je crois que moi, je me rends pas compte à quel point la vannerie, c'est immense. Pour moi, la vannerie, ça reste un panier... Ou un set de table, et j'ai pas plus loin que ça, quoi.
Et oui, peut-être qu'il y a un autre élément important dans comment moi j'ai commencé à faire de la vannerie, c'est que j'ai une amie qui habitait à Kigali, au Rwanda, en 2019. Moi, je suis allée la voir. Et on a visité notamment, en bon touriste, un village royal, avec la case, l'enceinte autour. Et en fait, c'était des mêmes plantes qui faisaient l'enceinte, qui ensuite faisaient les murs et le toit de la case. Et quand on rentrait, qui faisaient des paravents à l'intérieur, mais avec différentes épaisseurs et différents types de tressage. Et puis, qui faisaient des nattes, qui faisaient des objets dans lesquels on allait conserver les aliments, etc. Et donc, en fait, une plante... un peu plus qu'une, mais comme ça, visuellement, sans être en mesure de tout identifier et sans connaître, l'impression que ça faisait, c'était qu'une même plante protégeait différentes échelles de vie, et à la fois le village, la maison, la chambre, l'aliment, enfin, c'est pour ça que je dis que c'est immense, la vannerie, c'est que si on dit que la vannerie, c'est le tressage des végétaux entre eux, alors en fait, on va jusqu'aux vêtements, on peut pousser assez loin. Évidemment qu'il y a un moment, ça vient du tissage, ça change un petit peu. Mais en fait, cette histoire de tresser des végétaux, c'est omniprésent. Et ça pourrait remplir un nombre de... Enfin, tout ce qui est enveloppe. Et du coup, là, on est de l'architecture à la poche. Du coup, c'est assez immense, non ? Par exemple, moi, le premier point que j'ai vraiment appris une fois que je suis allée au-delà de juste la natte plate dessus-dessous et puis on fait une couture au bord pour que ça tienne, quoi, mais du coup on reste sur une surface plane, c'est avec Carlos Fondales et c'était un tressage ouvert avec un fil, donc c'est pas que la plante elle-même et c'est un tressage de nasses pour pêcher, qui est aussi utilisé pour faire des paniers, pour vendre le poisson, et puis qui est utilisé pour plein d'autres choses maintenant, mais qui est très aéré, et vraiment très très aérien, et puis avec le fil de couleur qui vient serrer les brins de plantes entre eux, ça apportait une touche que qui me manquait quand je regardais les objets en vannerie, où je trouvais que c'est vraiment des couleurs toujours naturelles, un peu beige, brun. Et puis, ça prend, en fait, de regarder les nuances entre les différents brins d'osier et puis les différents points. Et j'en étais pas du tout là, moi, j'en étais au début. Donc, je voyais vraiment qu'une surface toujours un peu unie et toujours un peu la même. Et toutes les nuances de points, je les avais pas. Et j'ai encore beaucoup à apprendre. Et du coup, d'apprendre ça avec Carlos, il m'a aussi appris ce point tressé, que c'était inspiré de la technique pour faire les filets de pêche et que ça se retrouvait tout autour de la Méditerranée. Et que c'était une même technique qui va être employée en Tunisie, sur les côtes espagnoles, mais aussi dans le sud de la France. Vers Nice, il y a encore des personnes qui utilisent, enfin, pas que à Nice, mais qui l'apprennent et qui transmettent cette technique-là. Et je suis en train de me perdre dans mes histoires de vannerie, comme toujours. Mais du coup, ça, ça, ça parle vraiment à chaque fois d'une relation à un paysage et à des plantes et à se nourrir. Et puis après, donc déjà aussi, juste ça, c'est immense. La vannerie, ça fait partie de cette façon-là d'utiliser ce qui pousse autour de soi et du coup, qu'il y a quelque chose qui peut être très vernaculaire et qu'il y a une part intéressante à ça. Et en même temps, on retrouve sur toute la planète, toutes les populations font de la vannerie et tracent des végétaux, quoi.
Et est-ce que tu connais le nom de la technique que tu as appris en Espagne, qui se retrouve ailleurs en Méditerranée, et tu connais les variations des noms ?
Non, je ne connais pas les variations des noms. Et aussi sur cette question de nommer, par exemple, les points de vannerie, il y a un point qu'on a longtemps, qu'on appelait le point burkinabé, et sous prétexte qu'il vient du Burkina Faso, et qu'on l'a beaucoup, beaucoup appelé comme ça. Et en fait, maintenant, il y a des vannières et des vanniers qui l'appellent le point néolithique, parce qu'ils se sont rendus compte que le point existe, en fait, en plein d'autres endroits de la planète, pas que au Burkina. Et depuis très, très, très longtemps, alors évidemment, la vannerie, comme c'est des matières organiques, il n'y a pas beaucoup de traces de comment on tressait et tout ça, sur des périodes aussi longues, mais il y en a via la céramique, parce que ça a été utilisé parfois pour faire des moules, et du coup après, si on, à partir du moment où on a cuit la céramique, il y a eu des traces aussi des moules en vannerie qui étaient utilisées. Donc on voit quand même que ça remonte super loin, et donc la dénomination des points, elle est assez compliquée, parce qu'on a aussi inventé les mêmes choses aux mêmes endroits. Moi, je sais que ce point, il se retrouve tout autour de la Méditerranée, mais peut-être qu'il existe aussi le même point en Polynésie, par exemple, où il y a beaucoup de pêche et un autre rapport à l'océan. Enfin, mais ça, j'en sais rien, j'ai pas fait ces recherches.
Mais c'est intéressant, cette façon de nommer. C'est un vaste débat, je trouve, de nommer des pratiques, mais là, l'histoire que tu viens de dire, ça montre aussi... Enfin, à quel point ça classifie les choses. Bref, le point burkinabé, ça renvoie à plein de choses aussi, des a priori qu'on peut avoir sur le continent africain, avec un jugement assez évolutionniste de ce type de société. Et je trouve ça cool aussi de...
Oui, et de ce type d'artisanat, en fait. Enfin, je pense aussi sur le regard de la vannerie elle-même, peut-être à une époque, de mettre en avant le côté... exotique, technique du monde, ça allait séduire les personnes qui étaient les plus enclines à perpétuer cet artisanat-là, et voilà, pour faire des gros clichés aussi. Ouais. Et mais je pense que ça vient aussi de ça, on nous parle. Et puis que là, il y a un gros mouvement de renouveau en vannerie, et aussi sur la place et le rapport qui est vraiment lié à l'écologie et à la recherche d'activités pour les individus qui fassent sens. Mais du coup, ce qui faisait sens, c'était de travailler avec des matériaux naturels, c'était de produire des objets durables, c'était d'avoir un temps long, c'était d'avoir de travailler avec leurs mains. Enfin, et donc, toutes ces choses-là, elles n'étaient pas dans l'imaginaire burkinabé. On fait des objets d'artisanat un peu exotiques. Et le vocabulaire, il change. Et la façon de lire ton travail et de le valoriser, il change. Donc, je trouve qu'après, d'aller chercher le néolithique et d'essayer d'ancrer ça sur une histoire d'humanité super longue, qui est aussi vraie. Enfin, je veux dire, ce point, au Burkina, ils le font. Et ce point, il existe depuis super longtemps. Enfin, les deux sont vrais. Après, c'est effectivement quel mot tu utilises et pour montrer quoi ou valoriser quoi.
Oui.
Ça va encore bouger.
Oui.
J'espère. Le coup, c'est quand même vachement immense, la vannerie.
Oui, c'est vrai. Effectivement, je découvre maintenant qu'on peut ouvrir cette porte et parler de tout plein de choses. Et à la fois, quand vous parliez de cette question autour du nom, là, c'est vraiment aussi à la vannerie, parce que la même question se pose avec les plantes. Comment est-ce qu'on nomme les plantes ? Comment est-ce qu'on sait qu'on parle de la même plante dans plein d'endroits différents du monde, et même des fois à l'échelle d'une vallée, elle n'est pas appelée pareil par différents groupes d'individus. Mais là, pour être sûr qu'on parle de la même chose, il y a quand même le geste, et c'est quand même quelque chose de central dans la vannerie, le geste. Et tu parlais tout à l'heure aussi de ces différentes échelles de gestes.
Et sur les noms, ça, à chaque fois, moi, je pense à la canne de Provence, justement sur nommer les plantes, qui est Arundo Donax, et qui se retrouve aussi sur tout le bassin méditerranéen, et puis qui est en train de remonter le Rhône, et qui a aussi tout un parcours assez dingue en tant que plante, et qu'on appelle ici canne de Provence. Ce qui l'a réduit soudain à une géographie vraiment très spécifique, alors que Arundo Donax se retrouve tout autour de la Méditerranée, et elle est utilisée justement pour ce point de tressage de nasses et tout ça, dont je parlais, comme la myrte et d'autres.
Il peut y avoir plein de plantes utilisées en vannerie, et quand tu dis les gens qui se mettent à la vannerie aujourd'hui, c'est aussi pour l'idée d'utiliser une ressource plus locale. Et c'est quoi l'état de la ressource pour la vannerie aujourd'hui? Parce que c'est aussi des plantes qui demandent de l'eau, j'imagine. Et en même temps, c'est des plantes qui sont sauvages, mais il y en a aussi qu'on cultive.
Oui, alors celle qu'on cultive, c'est l'osier, c'est le saule. Le saule, c'est l'osier. Pas tous les saules sont des osiers, mais tous les osiers sont des saules.
Ok.
Ça c'est... Non, le saule pleureur, ça fonctionne pas en vannerie.
Pour être appelé osier, il faut.
C'est quoi? C'est l'usage. Osier, c'est le nom. C'est le nom qu'on a donné. Je sais pas pourquoi à tous les saules qu'on cultive pour la vannerie. Donc l'osiericulture, c'est que du saule, à ma connaissance. On va mettre un peu de nuance dans tout ça parce que je suis pas une spécialiste, mais voilà. Et des saules qui sont utilisables en vannerie. Donc il y a.
Donc là, c'est l'usage qui détermine le nom de la plante, ouais. Finalement.
Après, voilà, son nom latin, c'est Salix viminalis, par exemple. Ça, c'est un des saules qu'on peut utiliser en vannerie. Il peut être cultivé, mais il peut aussi être utilisé comme arbre d'ornementation dans un jardin pour un aménagement paysager, ou il peut être trouvé en sauvage. Au bord d'une rivière. Enfin, voilà.
Et c'est quoi les autres plantes qu'on tisse à part l'osier? Enfin, pardon.
Tresse. Il y en a énormément. Toutes celles qu'on peut des fibres. Il y a une partie qui est un petit peu ambivalente, on va dire. Par exemple, les orties. Ou les feuilles de yucca, enfin beaucoup de feuilles qu'on va venir déchirer en longs filaments pour ensuite faire de la cordelette. On pourrait avoir aussi les feuilles qui sont autour des épis de maïs. Donc là, on vient découper, puis ensuite on vient les nouer entre elles pour faire de la corde. Et là, on se trouve vraiment entre le fil et la vannerie, dans cette espèce d'entre-deux. Et après, vraiment en vannerie, qui est de prendre une branche, de pas trop la changer et de la tresser. Il y a aussi beaucoup de choses. Il y a la plupart des plantes qui font des lianes. Par exemple, la clématite, ça se tresse très bien. Et ça se trouve à plein d'endroits. Mais aussi le houblon, qu'on voit beaucoup moins dans le sud, mais qui se tresse très bien aussi. Les lianes, on va appeler ça comme ça, entre deux pervenches, le chèvrefeuille aussi, donc un petit peu toutes ces choses-là, mais la clématite, c'est vraiment hyper facile à travailler, pas trop à préparer, mais à travailler. Et après, il y en a encore plein, la bourdaine, la viorne, il y en a qui en plus ont des noms qui changent pour le coup, pour ce que tu disais, d'une région à l'autre, et des fois qui vont être la même, mais il y a aussi le cornouiller sanguin. Et puis après tout ce qui est effectivement jonc, massette, donc ça c'est les roseaux, mais ça aussi ça se tresse bien, et pour coup ça se ramasse en été, alors que les autres c'est plutôt automne-hiver, et des pailles, et du coup c'est là où on n'est pas nécessairement proche de l'eau. C'est quand même grosse majorité de plantes qui ont besoin d'eau, mais pas que. Et notamment tout ce qui est les espadrilles, la sparte et toute cette vannerie là, elle est plutôt faite avec des graminées qui sont qui sont sèches et qui sont ramassées à un moment de sécheresse aussi. Je ne peux pas faire une liste exhaustive parce qu'il y a aussi des vanneries en algues.
Ou en écorce,
ou en racines. J'ai utilisé pour la première fois des écorces là ce printemps. C'est quand même fou. Enfin, c'est très agréable à travailler et c'est très étonnant à ramasser aussi. Mais voilà, enfin, et puis voilà, les racines, là, j'aimerais bien essayer les racines d'épicéa. Ça se tresse aussi super bien. Et il y a des connaissances qu'on a et d'autres qu'on n'a pas. Donc, par exemple, le maïs, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup utilisé au Mexique, en vannerie. Et ici, pas du tout. Et du coup, pour trouver les informations sur comment préparer la plante, quelle partie se tresse, etc., moi, au début, je ne trouvais rien, jusqu'à ce qu'une amie me dise bah, « Cherche en espagnol, ça ira peut-être mieux. » Et voilà. D'un coup, il y a tout un champ de techniques, de tutos qui s'est ouvert à moi, mais en espagnol, parce que ce n'est pas quelque chose qui est pensé en français, quoi, en fait. Donc, il y a peut-être plein de trucs qui se tressent et on n'est pas encore au courant. Quoi. C'est ça que je veux dire.
C'est bon, t'as dit le maïs, mais tout à l'heure, t'en as dit une autre aussi qu'on connaît pour un autre usage. Je sais plus laquelle, mais du coup, il y a aussi des plantes multifonctions. Et la vannerie arrive comme une fonction d'une plante qui n'est pas forcément... À part l'osier, on le cultive. Enfin, le saule, on le cultive pour faire de la vannerie. Mais il y en a d'autres, comme le maïs, on ne le cultive pas pour la vannerie.
Non.
On le cultive... Du coup, ça s'inscrit aussi dans un cycle d'usage de plantes. Au bout du cercle, peut-être, du coup.
Ouais, ça, c'était une vraie question. Par exemple, quand je vais ramasser de la clématite, et des fois, je ne demande pas trop l'autorisation. Je trouve des vergers abandonnés, par exemple, avec la clématite qui pousse. Et je vais ramasser cette clématite. Et au début, j'avais très peur que les passants et les habitants me disent « Qu'est-ce que vous faites là ?» et puis que ça se passe mal, que ça crée des tensions. Et en fait, non. Pour l'instant, jusqu'à présent, j'ai plutôt des retours positifs d'entretien du lieu. « Ah, bah, elle commençait à tout envahir. » Donc c'est souvent, par exemple, les ronces aussi, ça s'utilise beaucoup en vannerie. Et c'est des plantes qui sont très... virulentes là où elles se plaisent et qui prennent beaucoup de place et qui peuvent rapidement embêter les personnes pour des raisons ou d'autres, quoi, plus ou moins valables. Donc là, on se retrouve dans un rapport, je trouve, vraiment intéressant et très positif dans cette histoire plus de maïs. J'avais essayé de tresser des pieds de tomates parce que j'ai... ma pratique artistique, je travaille aussi sur le travail saisonnier agricole. Et donc, j'avais fait un temps de recherche dans une serre en Suisse. Et donc, c'est une serre qui faisait pousser des tomates cerises grappes hors sol en agriculture bio. Et donc, les pieds sont plantés en janvier et ils sont récoltés à la fin du mois d'octobre. Et ils ne font que pousser pendant toute cette période-là, pendant ces 10 mois. Et donc, ils finissent, ils font, on va dire, entre 10 et 15 mètres de long. Ce qui n'arrive pas dans nos potagers. Et fin octobre, début novembre, ils arrachent tous les pieds et ils balancent tout. Et ils en replantent de nouveau. Ça reste de la production intensive industrielle. Et je me disais, c'est absurde. Est-ce que ces énormes troncs qui sont des lianes, personne n'a jamais essayé de... Alors, de nouveau, dans mon contexte, je ne sais pas ailleurs, mais de te les tresser. Comment on fait ? Donc, je les avais ramassés, j'ai fait sécher, et je les ai écorcés, je les ai traités comme la clématite. C'est-à-dire, on ramasse, pas tout à fait comme la clématite. La clématite, on ramasse, on fait bouillir en écorce. Là, j'ai ramassé, fait sécher, fait bouillir, écorcé. Et en fait, après, tu peux effectivement le travailler, mais en torsion. C'est pas ce qu'il y a de plus... facile, mais ça tient et après ça ne bouge plus. Et donc là, on est au bout de la chaîne. Et je me dis, bon, il n'y a pas d'usage pragmatique qui viendrait pour ce maraîcher de se dire, OK, à la fin de l'année, je garde mes 3000 pieds de tomates de 14 mètres de long et je vais m'amuser à les tresser. C'est sûr que bon, ça, c'est pas très très loin, mais dans l'idée, j'aimais bien de dire que cette plante, elle a été choyée et bichonnée pour réussir à prendre cette proportion-là pendant 10 mois et qu'à la fin, on est encore en train de la travailler pour qu'elle puisse
devenir autre chose
et récolter d'autres choses. Ouais. C'est un peu un fantasme.
À quel stade on ramasse, enfin on fait de la cueillette de végétaux pour pouvoir tresser? Enfin, tu vois, je ne sais pas si dans le cycle de la plante.
Mais ça, c'est, ouais, c'est super. Non, mais ça, c'est super variable.
Ouais.
Parce que là, quand je parlais de ces fibres où on est très proche du fil, enfin de ce qui va donner, par exemple, le chanvre, voilà, qui est utilisé pour faire du textile, l'ortie. On mange aussi, qui a mille propriétés, on peut faire la cordelette avec, mais on va pas du tout, c'est pas du tout le même processus que le châtaignier où on va prendre des branches de tel diamètre, ensuite on va devoir les couper, on se rapproche beaucoup plus de la menuiserie, enfin, et justement la vannerie c'est aussi assez immense pour ça, quoi. C'est qu'il y a des gestes qui peuvent être mais plus de l'ordre vraiment de la menuiserie, de venir couper, ensuite d'avoir des rabots, de faire ce qu'on appelle des éclisses, c'est-à-dire si on prend donc le saule, de couper un brin au moins en deux, parfois en quatre, dans la longueur, tout à fait, pour avoir quelque chose de plus plat et d'autres usages. La ronce aussi, on la coupe dans la longueur pour enlever la fibre qui est à l'intérieur, parce que ça moisit. Et puis, alors que la partie extérieure devient comme du cuir presque. Enfin, elle est vraiment très, très solide. Donc, en fait, à chaque fois, on vient chercher la part solide de la plante. Mais sur un châtaignier, c'est pas du tout la même chose que sur l'iris où on va récolter les feuilles qui commencent à faner. Et puis, les tresser entre elles. Mais on va pas pouvoir avoir le même résultat, ni même le même type de geste. Mais moi, je travaille plus facilement. En tout cas, je suis plus attirée par des plantes où j'ai peu de transformations à appliquer. Aussi parce que j'ai pas d'atelier, j'habite à Marseille. Donc, en fait, le temps de récolte et puis la possibilité de transformer la matière, ça, c'est très réduit. Voilà, le jonc, on fait que le cueillir, le faire sécher et après on le retrempe et on peut le travailler tel quel. C'est vraiment quelque chose d'idéal pour moi, alors que le châtaignier, où il y a tout un travail du bois, de sa découpe, de sa préparation avec des outils, avec des copeaux, avec c'est beaucoup moins. Déjà le saule, c'est un peu limite pour moi. Mais ça, c'est dû à mes conditions de vie, le fait de ne pas avoir d'atelier et de vivre en ville, je pense, et dans une ville où on ne vend pas d'osier, parce que par exemple à Madrid, il y avait encore un magasin en plein centre-ville qui vendait des bottes de différents types d'osier, etc. Enfin, du coup, on a un accès à la matière beaucoup plus facile. Je fais un truc, tu as posé la question il y a super longtemps. Mais là, il commence à y avoir un manque de production d'osier en France. Mais il y a des nouveaux osiericulteurs et de nouvelles osiericultrices qui s'installent. Mais c'est un peu... Surtout que t'as jamais vraiment trop... Si tu t'installes comme vanier ou vanière, t'as jamais vraiment trop d'osier. Tu donnes tes stages, etc. Enfin bon, en fait, on n'a jamais trop... Et du coup, ouais, ça devient un peu comme une sorte de champignon, quoi. Les gens sont là, non, j'ai plein d'osier, mais je te dis pas où je l'ai acheté. Non, j'exagère, j'ai quand même eu des adresses, mais faut y aller tôt, mais c'est tout ce qu'on va te dire, quoi. Mais non, mais il faut s'y prendre beaucoup plus tôt, c'est-à-dire quand Très tôt. Voilà. Pour plus d'agriculteurs.
Je trouve intéressant ce que tu disais de à Marseille, typiquement le jonc, ça me convient bien parce que dans les conditions dans lesquelles je travaille, je peux pas faire beaucoup plus. Mais du coup, comme ce que tu disais tout à l'heure sur une semelle d'espadrilles que tu disais hors micro, une semelle d'espadrilles qui va raconter quand tu t'y connais et que tu sais très bien analyser l'objet, à la fois l'endroit où elle a été faite et au niveau de la ressource utilisée et ensuite du point que tu peux resserrer jusqu'à comprendre toute son histoire et la géolocaliser, même si c'est pas du tout le bon terme. Du coup, c'est pareil, j'imagine les conditions de fabrication racontent aussi quelque chose, enfin, à la fois la plante que tu vas utiliser va raconter quelque chose du paysage jusqu'à l'objet que tu vas faire, jusqu'à les conditions dans lesquelles tu vas les faire. Mmh. Tout ça va être raconté dans un objet.
Oui. Oui, tout ça est contenu dans un objet. Et j'ai l'impression qu'en plus, là, on va peut-être pas mal embrouiller les pistes des futurs archéologues. Puisqu'il y a beaucoup plus d'accès à des plantes différentes, à des techniques différentes. Moi, j'utilise... Là, j'utilise du jonc et de la clématite. Et en fait, la clématite, quand même, en vrai, à Marseille, et même le jonc, et surtout la clématite, on n'en trouve pas tant que ça, quoi. La canne de Provence, donc, ce serait beaucoup plus... elle est cohérente par rapport à mon lieu de vie. Mais après, je pense que c'est aussi ce qui est... Une des choses qui, moi, m'intéresse dans la vannerie, c'est cette circulation des savoirs. Et parce que les plantes, elles font que se déplacer aussi, et elles cherchent, elles aussi, genre si on leur prête des intentions, à se déplacer. Et elles utilisent plein de stratagèmes pour ça. Et du coup, c'est aussi de se dire, bon voilà, le maïs, la tomate, tout ça, par exemple, ça a quand même traversé un océan, changé de continent. Et les savoirs qui sont liés à ces plantes-là n'ont pas suivi, quoi. La tomate, pendant les premiers siècles, on ne l'a pas mangée, alors que c'est quand même super bon. Et surtout que au Pérou, c'était mangé.
Says to me, enjoy. Les dicotylés d'ondes ont des choses à vous dire. Tous les quatrièmes mardis du mois de 15h à 16h sur Radio Galère 88.4.
Comme en ce moment, je travaille aussi avec un collectif qui s'appelle Hydromonde, qui travaille sur les questions liées à l'eau et dans une approche bio-régionale. Donc du coup, par exemple, si on prend le bassin versant du Rhône, cette idée que là, il y a des connaissances qui sont implantées dans le sud de la France depuis très très longtemps liées à cette plante-là. J'aime pas du tout tresser la canne de Provence, mais bon, on choisit pas. Là, elle est en train de remonter le Rhône. Est-ce que ces connaissances d'usage, de tressage, parce que alors on la tresse, mais c'est aussi pour faire des hanches d'instruments de musique. Enfin, il y a plein d'autres. On l'utilise un peu en architecture. Il y a plein d'usages de cette plante. Est-ce qu'ils remontent avec elle et comment on peut faire pour que ça se suive ces choses-là? Parce que là, ça devient plus politique, mais parce que c'est des vrais outils d'avannerie aussi, et cette connaissance-là d'autonomie des individus dans plein de choses, de petites étapes de vie et de relations à leur environnement. Et vu que là, il y a des gros changements en cours, de maintenir ça en ayant toujours ces échanges de savoir, je pense que pour moi, ça me semble important.
Ce qui fait que la canne de Provence, du coup, elle remonte la vallée du Rhône, enfin, c'est les changements.
C'est que le climat est de plus en plus favorable à sa pousse, mais c'est aussi que c'est une plante qui avance par rhizome, et du coup, elle se trimballe quand même facilement aussi parce qu'on l'arrache. Alors, du coup, il y avait les caniers qui avaient un certain entretien, mais là, à Marseille, il y a quand même le collectif Safi qui va beaucoup mieux en parler que moi, donc je vais pas trop m'avancer sur ce terrain, parce que de toute façon, aussi comme ces plantes ont été arrachées, parce qu'elles s'effondrent par manque d'entretien. Ouais. Quand il y a des crues et des choses comme ça, elles tombent, après les rhizomes se déplacent, machin. Donc, bref, je pense qu'il y a plein de façons dont ça se répand, mais c'est principalement le fait que le climat est plus favorable.
La canne de Provence, elle est un peu délaissée dans ses usages déjà en Provence, non?
Oui, mais il y a quand même encore des caniers professionnels dans la région de Hyères. Il y a aussi un usage... En Provence, il y en a de moins en moins, mais il y a toujours... Il y a le musée qui vient de rouvrir, là, dans le Luberon, à Cadenet, et dans lequel on trouve plein d'objets en vannerie, du coup, logique, et d'objets en canne de Provence aussi, qui témoignent de quand même plein de savoir-faire provençaux qui sont plus trop d'usage, mais nulle part on va pouvoir dire qu'il y a un usage de la vannerie très développé en France. Enfin, c'est quand même un artisanat qui a été en grande perte de vitesse, qui a d'abord été industrialisé pour faire des choses assez uniformes avec des moules, et voilà. Et après, il y a eu le plastique, et le plastique a imité le tressage pour faire des corbeilles à fraises, mais c'était quand même vachement plus rapide. Et donc voilà, on a toujours une école, mais ça reste très. C'est pour, soit pour du luxe, l'artisanat vraiment avec. Soit des artisans, peut-être plus comme la céramique, sauf qu'il n'y a pas encore eu le boom.
Je trouve que c'est une pratique qui s'inscrit dans le temps long, qui ne correspond pas forcément au temps de vie et au mode de vie urbain, parce que ça demande de l'espace, du temps, une connexion, une forme de saisonnalité des plantes et tout.
C'est beaucoup d'anticipation, et ça aussi, je pense que c'est quelque chose... évident.
Et est-ce que avec ton collectif Hydromonde, vous réfléchissez à comment on peut transmettre des savoir-faire
sans les patrimonialiser entre guillemets, enfin sans les figer, mais enfin voilà quelle dynamique ça peut prendre en fait, cette, enfin, ces échanges de connaissances et comment ça peut suivre aussi la circulation de la plante en fonction des évolutions environnementales et climatiques.
Alors non, réfléchis pas à ça. Déjà parce que moi j'ai rejoint ce collectif qui existait déjà il y a une petite année. Et je suis venue apporter justement mon bagage en vannerie et les liens qu'il pouvait y avoir entre vannerie et biorégionalisme et production artistique et militantisme. Et ça, c'est en cours de construction et d'échange avec les autres personnes du collectif qui, pour le coup, l'ont monté et l'ont fondé. Et ils travaillent par terrain de recherche, on va dire. Et là, le terrain actuel, c'est, enfin, sur lequel moi, en tout cas, je suis impliquée, parce qu'ils ont plusieurs projets en même temps, c'est le Léman, le lac Léman. Et du coup, j'ai plutôt, pour l'instant, proposé, moi, une lecture des différents étages, on va dire, depuis le glacier jusqu'à l'arrivée au lac, des végétaux tressables qu'on pouvait trouver et la création de costumes, mais là plutôt de l'ordre de la fiction évidemment, un costume fait avec des plantes qui sont plutôt de cette altitude là et ensuite de cette autre altitude, etc., jusqu'à arriver au marécage et à quelque chose avec plus de gens. Mais ça, pour l'instant, c'est du dessin et c'est de la fiction, et j'ai l'impression que dans les outils de partage, il y a un petit peu deux piste, et il y a une piste qui est celle de la narration et de la fiction, et qui peut venir être accompagnée de je sais pas moi, de contes, ou alors de récits écrits, de témoignages, d'une pièce de théâtre, quelque chose de vraiment beaucoup plus narratif et en partie fictionnel. Et puis il y a des ateliers de faire, mais où là, pour l'instant, dans ce collectif, moi je suis la seule avec le savoir-faire. Donc peut-être la première question, c'est déjà comment je le partage avec les autres membres. Moi, dans comment j'ai appris, c'est quand il y a eu toutes les étapes, du coup, la cueillette, la transformation du matériau, puis le tressage lui-même, que j'ai été le plus à même de m'approprier les outils. Mais ça a demandé une semaine d'atelier. Et du coup, ça, c'est des dynamiques à mettre en place qui sont plus contraignantes.
Parce que tu disais les plantes qui stressent, bon, à part la losier où il y a une pénurie, mais les autres c'est clématite, ronce, fibre de maïs une fois qu'on a récolté le fruit, et encore d'autres exemples comme ça qui sont des plantes qui sont soit dont on a déjà extrait ce qu'on voulait extraire, soit qui sont considérées comme des indésirables, comme la ronce et la clématite et même la canne de Provence. Est-ce qu'on peut dire, en généralisant et du coup forcément en oubliant plein de choses, que c'est aussi un moyen de valoriser des plantes indésirables ou des plantes qui ne sont pas valorisables ailleurs?
Oui, je pense, ouais. C'est un moyen de valoriser, mais que c'est, en tout cas, que c'est une des pistes. Je sais qu'il y a une designer, je ne connais plus son nom, qui avait essayé de trouver justement les usages de la renouée du Japon. Est-ce qu'on peut l'utiliser en vannerie? Est-ce qu'on peut l'utiliser en biomatériaux pour la construction, un peu comme pour faire des plaques d'isolant? Est-ce que, donc, essayer de chercher en fait toutes ces plantes aussi sur cette histoire d'indésirable, et aussi sous beaucoup d'usages qui ont été abandonnés. Par exemple, les cannes, elles étaient utilisées, tous ces caniers qui maintenant s'effondrent et créent des problèmes. Il y avait des usages réguliers par les habitants jusqu'au milieu du XXe siècle. N'empêche que c'est sur cette période, les années 60, tout à coup, ces usages-là et ce temps-là pour ces usages-là, il s'est arrêté. Et en fait, après, on se dit, ah là, mais il y a plein de ronces ou il y a plein de clématites. Ça pousse partout, ça nous envahit, mais en fait, elles sont là depuis très très longtemps. Et il y avait une cohabitation et une régulation par les usages qui... C'est comme des broussailles pour éviter les incendies si on ouvre. C'est un peu du même ordre, quoi. Non, parce qu'il y a une volonté de monter une filière de la canne de Provence. En disant, est-ce que ce serait intéressant et comment ? Et donc, il y a plein de questions qui viennent, d'usage, etc. C'est des architectes de formation. Et il y a cette question de comment valoriser. Et donc là, on est vraiment sur cette optique-là de se dire qu'on valorise une ressource, c'est-à-dire qu'on la rend rentable, avec un usage qui peut être constant, et puis qu'il y a des productions et des chaînes de production qui peuvent se mettre en route. Et en fait, ça va très vite dans cette direction-là. Et ça, moi, c'est des questions qui me sont très étrangères dans ma pratique et dans ma façon de penser, puisque je ne suis pas du tout... Enfin, voilà, je fais des formations en art. Et du coup, il n'y a pas du tout le même rapport. Et c'est compliqué pour moi d'imaginer la vannerie dans ce prisme-là. Et je pense qu'une des choses qui me plaît dans la vannerie, c'est sa façon de résister à une production, alors même que ça a été industrialisé avant que le plastique se généralise. Mais dans mon imaginaire, surtout par rapport à la cueillette, aux clématites, à ce qui est de l'ordre des invasives, je me dis que c'est aussi intéressant que ça oblige l'humain qui veut les utiliser à aller à telle saison, passer du temps, le préparer, et que du coup qu'il y a des limites. Ça reste manuel et ça résiste à la mécanisation à plein de niveaux différents, et principalement la vannerie sauvage, puisque dès la récolte, parce que l'osier, on a réussi à mécaniser plein d'étapes, mais c'est pas le cas pour plein d'autres plantes de vannerie sauvage. Du coup, on peut valoriser, mais peut-être pas à temps.
Ce qu'on tresse, c'est des parties de plantes qu'on délaisse par rapport à... Enfin, c'est ce qui reste d'autres usages de la plante. Est-ce que c'est un peu une vérité générale sur les plantes qu'on tresse ou pas nécessairement ?
Je pense pas nécessairement. Le genre, on le tresse juste.
Oui.
On fait rien d'autre avec. Enfin... Non, et je pense que c'est un côté parfois un peu agaçant. C'est-à-dire que ce serait pratique de pouvoir se dire... Alors le maïs, voilà, c'est assez formidable. On le mange et on peut récolter les feuilles autour et tresser et tout. Mais pas beaucoup font ça. Le sol aussi, c'est quand même... Je pense que c'est pour ça que ça a été très, très utilisé aussi. Mais c'est plein d'hormones de croissance. C'est utilisé pour... Pour un tas de choses, autant en médecine que pour faire pousser des plantes. Et donc, en fait, c'est un peu une plante magique, le saule, qui va avoir cette multiplicité d'usages, parmi lesquels la vannerie. Mais le jonc, pour moi, c'est quelque chose qui sert juste à être tressé, et à faire des liens, et voilà. Les joncs, ils poussent en touffe. C'est des juncus. Ça veut dire lien en latin.
Oh, waouh!
Ouais! Et donc, c'est incroyable.
Moi, j'ai une question sur... Bah, alors déjà, tu nous as dit que quand tu avais démarré la vannerie, donc tu es allée en Espagne en ayant cet imaginaire que c'était le pays de la vannerie et que c'était pas du tout le cas en France. Tu arrives en Espagne, voilà, on te raconte l'inverse de ce que tu t'étais imaginé, en gros.
Oui.
Et tu dis que tu viens de Bretagne. Est-ce que au cours de tes apprentissages en divers endroits de la vannerie, quelle symbolique la vannerie on t'a transmis ou on t'a parlé, enfin, est-ce que là-dessus il y avait des choses un peu palpables et que tu peux nous raconter ici, ou alors
symbolique, tu veux dire quoi?
Qu'est-ce que ça évoque en termes d'imaginaire? Tu en parles un peu avec le lien, l'image du dessus, du dessous, qu'est-ce que les gens se racontent en fait de la vannerie, tu vois, quand ils la pratiquent?
Alors, j'ai pas une réponse qui englobe tout le monde, évidemment. Mais euh, par exemple, j'ai rencontré plusieurs personnes. Après, je pense que ça dépend des questions qu'on pose en tant que stagiaire. Mmh. Et du coup, moi, comme Carlos, il a beaucoup partagé son intérêt sur ce côté historique et plus traditionnel, mais plutôt vraiment comme un lien, comme le fait de maintenir un lien entre la personne et le territoire habité ou le territoire découvert. J'ai rencontré beaucoup de vannières dont c'était le deuxième métier. Et donc, il y avait une autre activité avant. Et à chaque fois, c'est des rencontres, je pense, qui sont très fortes dans ce que ça fait au corps. La plupart d'entre elles m'ont parlé de ce que ça leur permettait, soit de continuer, par exemple, une costumière ou autre qui avait vraiment un rapport manuel dans son travail, mais qui était sur des rythmes de production liés à l'intermittence, au spectacle, etc., de se dire, là, je suis sur quelque chose de beaucoup plus calme, mais je continue d'avoir du geste, etc. Et des personnes ou sur l'usage des plantes, des personnes qui sont passées de l'osier au jonc, justement, parce que avec l'âge, plus de douleurs aux mains, et le jonc, c'est beaucoup plus souple que l'osier, donc voilà. Enfin, ça vient souvent sur des questions. Moi, j'ai l'impression que c'est un domaine dans lequel je me retrouve à beaucoup parler de corps. Je sais très peu de choses, évidemment, de la vie des vanniers et vannières avec lesquels je suis en stage, mais je vais savoir qu'ils ont une pratique de la danse, qu'ils font tel type d'étirement. Enfin, qu'en fait, ça vient vraiment plus parler de corps que de... Je sais pas, que d'autres choses, quoi. Et sur les productions, il y a le plaisir de faire et le côté un peu hypnotique de la répétition, dont on parle beaucoup. Mais il y a aussi la frustration, mais ça, je pense que c'est de faire toujours la même chose. Mmh. Ou d'avoir des commandes qui sont un peu toujours un panier, comme ci, comme ça, et pas beaucoup de place pour la création, alors que quand on commence à maîtriser une technique, c'est très naturel d'avoir des envies de... d'envoler comme ça, mais et puis sur les prix des choses, moi je fais ça, c'est en France, moi je fais halluciner par les tarifs pratiqués par les vanniers et vannières quand on sait le temps de travail que c'est pas du tout rentable. C'est vraiment de l'ordre de là, pour le coup, de, je sais pas, de la passion, hein, parce que j'aime pas dire ça, mais je me dis, il y a un fossé entre les tarifs acceptés, acceptables, auxquels on paye un panier, même si on sait que c'est pas un panier IKEA, que du coup on est prêt à mettre un peu plus d'argent. Même ça, c'est ce un peu plus d'argent qu'on est prêt à mettre. Je me mets tout à fait dans ça, hein. Je paierai pas un panier une fortune, mais et le temps de travail réel. Et du coup, chez les vanniers et vannières dont c'est l'activité principale, c'est des gens qui vivent avec très peu de moyens, qui sont sous un statut qui est celui de l'artisanat et qui est quand même très compliqué. Et donc, c'est beaucoup les stages et la transmission qui vont permettre de s'en sortir et d'avoir quelque chose d'à peu près stable sur l'année. Et ça soulève plein de questions aussi entre eux, parce que comme on retrouve dans plein de métiers créatifs, là je m'éloigne de votre question, mais je sais pas, ça demande de faire de la com, de trouver des gens, d'avoir un lieu, enfin, et donc on sort de ce rapport là à la vannerie qui est le moteur premier quand on arrive en stage et dont ils parlent très bien et qui a motivé leur choix, évidemment. Et puis en fait il faut mettre fin au capitalisme plus vite possible. Comme ça ira mieux, non? Et on sera contents de savoir faire de la vannerie.
Quand tu seras sortie du capitalisme?
Ouais.
Moi, j'avais dans l'idée que la vannerie, c'était... enfin, qu'on utilisait ce qui restait des plantes une fois qu'on avait extrait tout ce qu'on voulait d'autre de cette plante, et que du coup il y a un truc de sur-rentabiliser la plante quelque part et en même temps de valoriser les déchets, enfin ce qui est considéré par d'autres comme des déchets. Et en même temps, en t'écoutant, je dis c'est aussi une plante qui résiste justement à la rentabilité, même si c'est pour le malheur des vanilles et des vanières. Enfin, je trouve qu'il y a un rapport ambivalent.
Oui, ça demande vraiment d'avoir du temps, qui est hyper précieux. Mais c'est un vrai engagement en faveur du temps long et d'une saisonnalité dans la pratique. Mais on rencontre aussi plusieurs vanières qui vont avoir une production agricole à côté. Un verger des oliviers ou des pommiers ou autre. Une saisonnalité qui se complète. Et donc en fait, ça demande de repenser. Pour des citadins, c'est très éloigné finalement ce rapport-là qui dit bon, ben là. Là, je vois pour la résidence en cours avec Hydromonde. Moi, je suis aussi une citadine, mais maintenant, j'ai appris des choses de vannerie. Ils disent, ah, bah, pour juin, il faudrait qu'on ait des costumes comme ci, comme ça. Je dis, bah, oui, mais là, moi, je la prends fin août. C'est trop tard. On a quand même, oui, on a plein de mois devant nous, mais c'est fini la saison de récolter les joncs et les massettes, et donc cette pièce-là du costume, elle pourra pas être faite pour juin l'année prochaine, parce que juin ce sera le début de la saison où je pourrai cueillir ces matériaux, et du coup ça va pas le faire. Il faut qu'en juin prochain je cueille pour pouvoir plus tard, un an encore après. Voilà. Donc, et ça, c'est des temporalités que moi, je suis très heureuse de retrouver dans ma pratique. Et en même temps, dont je sens à chaque projet que ça rentre en conflit, même avec les meilleures intentions du monde, enfin, même avec des gens qui essayent de prendre ça en compte, en fait, le temps dont on dispose individuellement et collectivement, etc., va à l'encontre de cette façon de travailler. Donc, c'est vraiment un endroit, je trouve, d'engagement assez fort, la vannerie. Et la vannerie sauvage encore plus.
Encore un grand merci à Claire d'être venue nous raconter des histoires de tissage et de tressage. Et si l'ethnobotanique vous intéresse, rendez-vous au séminaire annuel d'ethnobotanique qui se déroule à l'écomusée de Salagon du 2 au 4 octobre sur le thème « Nouvelle rencontre avec la plante ».
Dicoti vous souhaite une belle rentrée. On se retrouve le 4e mardi du mois d'octobre pour de nouvelles aventures. À bientôt.
À bientôt.
Nous marchons sur des œufs de caille que nous écrasons, mais quand même nous marchons. Nous marchons sur le sol mouillé, nos pieds sont cassés, nous marchons. Nous marchons tout droit vers n'importe où et contre tout, nous marchons. Nous marchons, on ne mange rien, on n'a pas faim, nous marchons. Nous marchons, ça fait un peu mal, c'est normal, nous marchons. Nous marchons, c'est hyper dur, mais nous sommes sûrs, alors nous marchons. Nous marchons, nous sommes les plus forts, nous sommes les plus fragiles, nous marchons. Nous marchons, ça ne sert à rien, ça change tout, nous marchons. Nous marchons, ça ne sert à rien, ça change tout, nous marchons. Nous marchons, ça ne sert à rien, ça change tout, nous marchons.
Dicotylé d'ondes, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'être resté à l'écoute. Vous pouvez retrouver toutes les émissions et leurs références sur radiogalère.org. Dicotylé d'ondes, c'est tous les quatrièmes mardis du mois en ligne ou sur 88.4.